Radio Kapi. Oh, Kapi. À la une de l'actualité, l'épidémie d'Ebola continue de progresser dans les territoires de Djougou en Ituri, où plusieurs postes de santé ont dû fermer face à l'afflux des malades, vous l'entendrez. À suivre également, l'ONG Justicia appelle à l'application effective de l'interdiction et la présence des hommes en uniforme sur les sites miniers. Et notre invité est Monseigneur Dieudonné Mbaya, recteur de l'université protestante au cœur du Congo. Il analyse le défi de l'émergence d'une nouvelle élite politique en République démocratique du Congo. Voilà, c'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Christophe Makassing à la présentation, encore une fois, bienvenue dans ce journal. En Ituri, 9 postes de santé sur les 12 que compte l'aire de santé héritage dans le groupement des Limani, en territoire de Djougou, ont fermé leurs portes. À la base, le débordement de ces structures sanitaires par l'afflux de malades, les autorités coutumières locales qui livrent cette information alertent sur la propagation rapide de la maladie et plaident pour un déploiement rapide des équipes de riposte pour sauver des vies humaines. Marcel Kisabiamungu.
Dans les territoires du Djougou, la maladie d'Ebola progresse plus vite que la riposte dans certaines localités. Dans les groupements Limani, par exemple, les structures médicales sont débordées par l'afflux des malades qui arrivent chaque jour. Selon les autorités coutumières du groupement Limani, 9 postes de santé sur 12 qui comptent l'aire de santé héritage auraient fermé leurs portes. Ces autorités coutumières indiquent qu'une partie de la population des Djati et Piti continue de résister aux mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires, ce qui facilite la propagation de la maladie au sein de la communauté. Le chef de secteur de Walindo Djati, Justin Goudza Kiza, parle d'une situation grave qui a déjà occasionné la mort de plus d'une centaine de personnes. En attendant la réaction des responsables de la riposte, les autorités coutumières redoutent une aggravation de la situation si des équipes médicales supplémentaires ne sont pas rapidement déployées dans cette partie du territoire. Territoire de Djougou, Bounia, Martial, Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Parlant gouvernance minière, l'ONG Justicia Sbel salue l'interdiction de la présence militaire sur les sites miniers, mais prévient sans volonté politique et suivi rigoureux, les mesures risquent de rester lettre morte comme plusieurs autres prises par le passé pour le même fait. Écoutons son président Timothée Mbouya, joint par Jean Gandou.
Cette activité est devenue très rentable et très lucrative au point que les responsables militaires ainsi que les responsables politiques ont tendance à se ruer vers les mines, notamment les mines de cuivre et de cobalt, pour exploiter les permis appartenant à des particuliers avec le soutien de certains investisseurs ou de certains étrangers qui apportent de l'argent frais ou des liquidités. Comment mettre un terme à cela? Justicia pense que les intentions ne suffisent plus. Il faut une volonté politique. Et la volonté politique réelle passe d'abord par la poursuite en justice de toutes les personnes qui sont impliquées dans ces vastes réseaux mafieux qui ternissent l'image de notre pays. Il faut rappeler que même le ministère de la Justice est incapable aujourd'hui de faire poursuivre certains individus à cause du fait qu'ils sont très haut placés et qu'ils disposent de beaucoup d'ancrage dans le pouvoir. Donc, seule la volonté politique au plus haut niveau du chef de l'État peut aider à résoudre définitivement cette question.
Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mercredi 15 juillet à N'Djamena pour participer au Forum africain de l'eau qui se tient du 15 au 16 juillet 2026. Cette rencontre continentale est consacrée à la mobilisation d'actions concrètes pour développer les infrastructures hydrauliques et améliorer l'accès à l'eau pour les populations. Selon le compte X de la présidence de la République, le président Tshisekedi y portera la voix de la RDC qui dispose d'un immense potentiel en eau dans la recherche de solutions durables face aux défis du changement climatique et de la sécurité hydrique. Ces déplacements du chef de l'État traduisent également la volonté de la RDC et du Tchad de consolider leur coopération bilatérale. Et à noter, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Mahamat Idriss Déby vont se rencontrer en tête-à-tête après l'ouverture des travaux du forum.
Pendant ces temps, dans l'est du pays, la situation sécuritaire demeure préoccupante. Au nord Kivu, les affrontements se poursuivent dans le Masisi. Selon des sources locales, lundi et mardi, de combats ont opposé les rebelles M23 soutenus par le Rwanda au Wazalendo allié aux FRDC dans le groupement des Kibabi, Nyamaboko et Bafuna. Une situation qui aggrave la crise dans la zone. Les détails avec John Chibabwa.
Mardi soir, une position de Wazalendo à Kinyaongo près de Nyabiondo a été ciblée par une attaque de drones attribuée à la FCM-23. Selon les sources locales, les combats en sont mercredi à leur troisième jour dans ces entités du territoire de Masisi. Le village de Kaseni, Nyanja, Bukumbirire, Luke, Katovu, Malemo et plusieurs localités environnantes figurent parmi les zones affectées. Les affrontements entraînent les déplacements des populations et des pertes matérielles importantes. Parallèlement, les belligérants poursuivent le renforcement de leur position. Dans un communiqué publié mardi soir sur son compte X, le porte-parole de la FCM-23 a réaffirmé la volonté de son mouvement de poursuivre les offensives afin d'établir, selon ses termes, un périmètre de sécurité pour les civils. Cette évolution intervient alors qu'expirait ce mercredi l'ultimatum fixé par les États-Unis appelant au retrait des forces rwandaises de l'Est de la RDC afin de favoriser une désescalade des tensions dans la région.
Autre fait sécuritaire dans la même province, à Manguina, territoire de Beni, 3 civils ont été tués et 3 autres blessés lors d'une attaque d'hommes armés non identifiés. Les assaillants seraient des ADF selon des sources locales, mais l'information n'est pas confirmée officiellement. Cette attaque survient après plus d'un an d'accalmie. Papier de Marc Marofimbo, rendu par Martial Papi Mukeba.
Les détonations ont ralenti mardi soir vers 20h, heure locale, dans les quartiers Home à Manguina. Selon la société civile locale, les assaillants ont tiré avant de s'apprendre à des habitations. 3 civils ont été tués et 3 autres blessés. Des maisons et une moto ont également été incendiées. Toujours selon ces sources, un assaillant présumé aurait été arrêté par les services de sécurité. L'identité exacte des groupes armés à l'origine de cette attaque reste toutefois à établir. Des sources locales évoquent une des ADF actifs depuis plusieurs années dans les territoires de Beni. Cette attaque est la première enregistrée depuis plus d'un an dans la commune de Manguina après une période d'accalmie relative. Jusqu'à présent, les FRDC ne se sont pas encore exprimés sur cette attaque. Les autorités locales appellent la population au calme et demandent aux habitants de collaborer avec les services de sécurité. À Manguina, les activités ont repris timidement ce mercredi matin, mais cette nouvelle attaque ravive les inquiétudes des habitants qui craignent un retour de l'insécurité dans cette commune. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
La mi-juillet atteinte, mais les troupes rwandaises sont toujours présentes dans les zones contrôlées par la F-123 dans l'est de la RDC. L'échéance évoquée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio pour leur retrait n'a donc pas été respectée. Face à ces constats, les députés nationaux Joseph Nkoyi, élu des Katakokombe au Sankuru et rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, appellent les États-Unis à tirer toutes les conséquences de ces non-respects et à veiller à l'application de l'accord de paix signé à Washington. On écoute Joseph Koyi dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
C'est encore une fois de plus la manifestation par le Rwanda de son comportement de mépris vis-à-vis de la communauté internationale, des États-Unis d'Amérique, et la manifestation aussi de sa détermination à pouvoir semer la désolation en République démocratique du Congo, la déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo et même la déstabilisation de la sous-région. Et je pense que c'est le moment pour les États-Unis d'Amérique de tirer toutes les conséquences parce que nous ne pouvons pas accepter qu'à l'heure actuelle, au 21e siècle, qu'il y ait un dirigeant africain qui se comporte en un tyran au mépris de toutes les instances internationales, de tous les accords bilatéraux et multilatéraux. Notre gouvernement, à ce qu'il y revient, est en train de tout mettre en œuvre pour mettre en condition les forces armées de la République démocratique du Congo pour la défense de notre intégrité territoriale et notre souveraineté nationale.
Place maintenant aux questions économiques. Le gouvernement congolais réaffirme sa détermination à poursuivre les réformes économiques et financières engagées avec les institutions des Bretton Woods. Devant les députés nationaux et les représentants du FMI, le ministre des Finances Doudou Famba a rappelé la volonté de l'exécutif de faire de la fiscalité un moteur d'investissement et des créations d'emplois. Il s'exprimait mardi lors d'une journée d'échange organisée par la commission Ecofin de l'Assemblée nationale. Écoutons le ministre des Finances Doudou Famba au micro de Michel Kifinda.
Nos partenaires du FMI sont en train de nous regarder et nous passons le message que lorsque nous conduisons des politiques économiques, nous devons faire attention au step back, ça veut dire à des actions qui peuvent nous remettre au niveau où nous avons déjà dépassé. L'objectif aussi du gouvernement, c'est de faire de la fiscalité un instrument d'investissement et d'attractivité de notre économie. Parce qu'aujourd'hui, la compétitivité de nos entreprises locales est mise en cause. L'objectif ne devrait pas être nécessairement la mobilisation des recettes sur un certain nombre de secteurs stratégiques. Des objectifs économiques peuvent aller vers la croissance économique, l'emploi, les revenus qui vont être générés peuvent permettre à soutenir la consommation et entretenir un cycle de croissance économique avéré. Vous allez constater que le gouvernement a mis beaucoup d'accent sur l'investissement public. Le gouvernement a beaucoup investi dans les transferts aux provinces. Lorsque vous sillonnez les pays aujourd'hui, il est en chantier.
Revenons au Nord Kivu, le forum provincial sur l'accès à l'eau potable et à l'électricité s'est achevé hier à Butembo. Pendant 2 jours, autorités, opérateurs du secteur et partenaires techniques ont formulé plusieurs recommandations pour améliorer ces services essentiels. Parmi les priorités figure la construction d'un captage d'eau sous la rivière Talia et l'interconnexion de réseaux des Virunga Énergie et d'énergie du Nord Kivu. Écoutons un extrait de ces recommandations lu par Consolé Sikakulia, coordonnatrice provinciale en charge de finances et de l'énergie au Nord Kivu, un extrait proposé par Martial Papi Mukeba.
Renforcer le plaidoyer auprès du pouvoir central et ou des partenaires pour le financement du projet de captage d'eau sur la rivière Talia. Proposer une régulation du tarif de l'eau en fonction du revenu réel des ménages. Dans le secteur de l'électricité, envisager la révisitation des contrats de concession en fonction des capacités réelles de production et de distribution de l'électricité. Plaider auprès du pouvoir central pour la suppression de certaines taxes du secteur de l'énergie qui découragent les investisseurs et qui impactent directement les coûts d'exploitation des opérateurs du secteur d'électricité. Encourager les sociétés NK et Virunga Energy à finaliser les études d'interconnexion de leurs réseaux.
Direction à présent Mbujimayi, chaque saison de grandes vacances rime avec flambée du prix des mèches. Après la publication des résultats de l'examen d'État, les lauréates se ruent vers les salons de coiffure pour célébrer leur réussite avec de nouvelles tresses provoquant une forte demande et une hausse de prix de mèches sur le marché. Esther Dalafina, reportage.
Dans les marchés, les commerçantes parlent d'un pic annuel devenu presque traditionnel. Lisette Mitongu, grossiste, évoque la loi du marché. Plus la demande augmente, plus les prix s'envolent.
Auparavant, on achetait les Michel à 2700, ou près 2300. Maintenant, les Michel, c'est 2800. On est à 2700 Royal. On a acheté ça à 3000. Maintenant, c'est à 4000 francs. Les enfants sont en vacances. Les mèches varient toujours.
Diane Ken, coiffeuse et propriétaire du salon Diaken Beautiful, confirme cette hausse et justifie cela par les vacances des élèves.
Il y a une hausse des prix, puis il y a carence de mèches au marché. Parce que tous les élèves sont maintenant en vacances. Du coup, ils tressent les mèches.
Beaucoup de parents cèdent à la pression sociale. Offrir une belle coiffure à leur fille est devenu un rituel de vacances, un signe de liberté après des mois de discipline scolaire. Mais Janine Mbelou, mère de 5 enfants, dont 3 filles, ne parvient pas à satisfaire ses filles suite à la rareté de certaines mèches prisées par les adolescentes.
Il y a d'autres mèches que nous cherchons et que nous ne trouvons pas, comme Royal. C'est ce qu'il y a à la mode, c'est ce que les enfants préfèrent.
La hausse des prix de mèches s'impose désormais comme un rendez-vous économique et social incontournable de grandes vacances au Kasaï oriental. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Ukraine, le nombre de victimes civiles atteint un niveau inédit depuis avril 2022. Selon l'ONU, au moins 293 civils ont été tués et 1990 blessés en juin 2026. Cette hausse s'explique par l'intensification des frappes russes de missiles balistiques et des drones de longue portée contre des zones densément peuplées, ainsi que par la multiplication de drones explosifs près de la ligne de front où les civils sont de plus en plus touchés dans leurs activités quotidiennes.
L'invité.
Notre invité est Mgr Dieudonné Mbaya, recteur de l'université protestante au cœur du Congo. Il évoque les défis qui freinent l'émergence d'une nouvelle élite politique en RDC et propose des pistes pour encourager une nouvelle génération de leaders. Entretien avec Esther Ndalafina.
Bonjour Mgr Mbaya Tchakani.
Bonjour madame.
Votre université a organisé le 5e colloque interdisciplinaire sur l'avènement et la formation d'une nouvelle classe politique en RDC, un vœu pieux ou un idéal national crucial. Quelle définition en tant qu'organisateur de ce colloque donnez-vous à l'expression nouvelle classe politique dans le contexte congolais?
L'expression est sorti du constat de la classe politique que nous avons. En tant que pays, nous avons une classe politique composée des dirigeants qui gouvernent, de ceux qui sont dans l'opposition et la succession de différentes compositions de l'élite gouvernante depuis 1960. Mais pendant le colloque, on est même allé à l'époque coloniale pour scruter l'évolution de la classe politique. Et donc, la classe politique, c'est l'ensemble de l'élite qui gouverne ou qui est proche de ceux qui gouvernent ou qui s'oppose aux gouvernants, l'élite qui émerge et qui a le leadership ou la direction d'une manière ou d'une autre du pays.
Quel est l'état des lieux que vous faites de l'actuelle classe politique congolaise?
L'état des lieux a été dressé à profusion pendant ce colloque. Ça veut dire, c'est une classe qui n'est pas arrivée à combler les attentes du peuple, de la population. C'est une classe politique qui n'a pas réussi à mettre sur pied un programme cohérent de développement de la nation congolaise et à s'entendre de manière structurelle, fondamentale, pour pouvoir conduire le pays vers son émergence et son développement. Ce qu'on peut considérer comme une faillite, un échec. Nous avons dit qu'il y a 3 échecs cumulés. Et donc on a, en conclusion, dit que c'est une classe politique qui n'a pas mérité.
Quelles sont les principales barrières structurelles, culturelles ou institutionnelles identifiées par le colloque comme freinant l'émergence des nouveaux leaders politiques en RDC?
D'abord, des barrières structurelles. On a vu que le montage des profils robots, des profils du politicien, depuis l'indépendance, on a même tendance généralement à définir la politique comme l'art du mensonge. Et les politiciens ont joué à consolider cette définition dans la conception de la population, par le fait que, de manière répétée, ils viennent aux élections, qu'elles soient organisées sous le MPR, parti État, avec voté vert, voté rouge, c'est toujours des promesses fallacieuses, du mensonge. Dès qu'on a gagné ce qu'on cherche, on s'en va, on ne revient que pour s'exprimer à la fin du mandat, pour obtenir un nouveau mandat avec un nouveau mensonge. Votez-moi cette fois-ci, vous verrez ce que je veux faire.
Oui, Monseigneur, quelles sont les recommandations qui ont été formulées à l'issue de ce colloque?
Plusieurs recommandations ont été formulées, mais de mémoire, je voudrais mettre l'accent sur 3 d'entre elles. La première, le colloque a proposé que l'État, le gouvernement crée une école nationale de leadership où on va former tous ceux qui sont nommés ou qui sont aspirants aux hautes fonctions de l'État. C'est pas une école idéologique comme Makanda Kabobi, qui n'était pas mauvaise, mais c'est une école où le leadership éthique, le leadership transformationnel, le leadership de responsabilité avec l'éthique à la base. Et la deuxième chose recommandée, c'est que les lois structurelles, comme les lois électorales et d'autres, soient arrangées de manière à ne pas permettre le passage de n'importe qui. La troisième et dernière recommandation que je voudrais mettre en exergue, c'est que même la Constitution, qui est la loi fondamentale, soit aussi dotée de critères qui permettent et aux partis politiques et à ceux qui ont gagné les élections, qui doivent former les gouvernements, et ainsi de suite, pour que on tienne compte de l'élite. Et donc, la Constitution règle un certain nombre de choses. Si c'est dans la Constitution, ça peut permettre de pouvoir faire les choses comme il se doit.
Merci beaucoup, Mgr Mbaya Tchakani.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de cet entretien avec Mgr Dieudonné Mbaya, recteur de l'université protestante au cœur du Congo. Il répondait aux questions d'Esther Ndalafina. C'est par ici que prend fin cette grande édition de 18h. Christian Makassing était à la présentation sous la coordination de Richard Junior Kamunga avec Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence et la paix. Retrouvez ces journaux en podcast sur notre site et suivez toute l'actualité en continu sur www.radiookapi.net ainsi que sur nos différentes plateformes numériques. Excellente soirée à toutes et à tous. Rendez-vous à 19h pour les derniers bulletins d'information de ces mercredis.